Orinoco. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, merci d'être fidèle à ce programme fait d'histoires, d'anecdotes et de questionnements mis en musique, ayant pour seule ambition vous offrir une heure la plus agréable possible, le cas échéant, enrichissante. Après vous avoir proposé le mois dernier un voyage dans l'univers de la magie, de la prestidigitation, de l'illusionnisme, de l'hypnose, du mentalisme, épisode que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter en podcast sur le site orinoco-podcast.com. C'est un autre périple que je vous proposerai au travers de ce programme. Voyage dans l'histoire même des déplacements humains. Allant du pèlerinage aux explorations, en passant par les voyages d'affaires ou d'agrément. Comment peut-on en une heure résumer l'histoire du voyage et du tourisme ? Comment peut-on en une heure dépeindre l'image du pèlerin, de l'explorateur, du voyageur et des touristes? Comme souvent, pour mieux comprendre le sens que l'on donne aujourd'hui au mot « voyage », il est bien de faire un léger retour en arrière pour constater que dès l'Antiquité, les personnes se déplaçaient déjà. Des déplacements réguliers et importants s'effectuaient vers quelques sites réputés tels que les grands sanctuaires de Delphes, d'Éleusis, puis vers Olympie, qui attirait avec ses jeux. Avec l'Antiquité romaine, se développa les vacances vers les lieux de villégiature, Herculanum, et les pèlerinages, sanctuaires de Grèce, d'Égypte, d'Asie mineure, entraînant la mise en place de diverses infrastructures d'accueil, des auberges, des gîtes. À partir du Moyen Âge, les échanges commerciaux, les routes vers l'Orient, les grandes foires commerciales, la ferveur religieuse, pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la Mecque, entraînèrent une intensification des déplacements. Puis au début du XVe siècle, les Européens entament leur exploration du monde. L'expansion européenne commença de la fin du Moyen Âge et se poursuivit lors des temps modernes. Les Portugais furent les premiers à explorer la côte ouest de l'Afrique, puis la France, l'Espagne, l'Angleterre et les Pays-Bas emboîtèrent le pas en partant à la découverte de nouveaux territoires par les voies navigables. On a tous en tête certainement les noms de Marco Polo, 1254, Christophe Colomb, 1451, Vasco de Gama, 1460, Magellan, 1511, ou bien encore Jacques Cartier. Partant parfois sans avoir de destination précise et sans savoir où ils accosteront, ces expéditions purent s'avérer des réussites, ce qui procura richesse et gloire aux royaumes qui les envoyèrent. Elles purent aussi se terminer tragiquement par un manque de nourriture, une tempête au milieu de l'océan ou un naufrage. Exploration et découverte qui inspirèrent à Montaigne ces quelques lignes. Notre monde vient d'en trouver un autre. Cet autre monde ne fera qu'entrer en lumière quand le nôtre en sortira. C'était un monde enfant, que ne l'avons-nous fouetté et soumis à notre discipline par nos forces, qu'attiré par notre justice et notre bonté. Ce philosophe, humaniste et moraliste français de la Renaissance ne se trompait pas trop dans la lecture qu'il faisait de ses voyages. Puis après avoir dessiné les côtes des grands continents, on commença à explorer l'intérieur de ces territoires. Tout cela avant que commence réellement l'histoire du tourisme telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou presque. Ce qu'il faut préciser, malgré tout, c'est qu'au XVIIIe siècle, les personnes qui voyageaient, autrement que par nécessité, étaient pour l'essentiel des savants ou des explorateurs convaincu qu'il fallait se rendre en un certain endroit précis pour connaître certaines choses. Prêt à supporter les désagréments, les menaces ou la fatigue des voyages, comme je l'évoquais d'ailleurs dans l'émission de juin 2023 sur les femmes singulières, en relatant les exploits de Jeanne Barret, première femme à avoir fait le tour du monde, aux côtés du naturaliste et botaniste Philibert Commerson et de l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville. Puis le tourisme fut d'abord anglais et réservé à une élite aristocratique. Historiquement, le tourisme a d'abord été une pratique culturelle avant de devenir un phénomène de masse et de revêtir d'importants enjeux économiques. Alors, prenons un peu de hauteur, du moins une certaine distance, pour revenir et examiner d'un peu plus près l'ensemble de ces acteurs des déplacements humains. Au travers des routes qui se sont croisées, des bateaux qui larguèrent leurs amarres, des montgolfières et autres albatros métalliques qui traversèrent les nuages. Et cela, quelle que soit la quête du voyage. Il me sera difficile, bien sûr, de retracer l'histoire des voyages d'une façon chronologique, car bien souvent, les moyens, les raisons et les destinations se sont entremêlés, se sont chevauchés. J'essaierai donc de le faire d'une façon qui soit la plus cohérente possible, et cela sans omettre malgré tout les plus anciens transferts connus de populations s'inscrivant dans le cadre de guerres et d'empires. Et c'est d'ailleurs par eux que nous commencerons, mais que très brièvement, car par « Voyage, tourisme et découvert », le titre de ce programme, cette émission n'avait pas pour but de parler des déportations, comme vous pouvez aisément l'imaginer, bien qu'impliquant de nombreuses personnes les ayant mis sur la route contre leur volonté. Une des premières dont l'histoire nous parle a eu lieu pendant la campagne de Sennachérib, le roi d'Assyrie de 705 à 681 avant Jésus-Christ. Guerre de Sennachérib contre le roi Ézéchias de Jérusalem, où plus de 200 000 personnes furent transférées vers d'autres contrées de l'empire néo-assyrien. C'est une des premières traces de déplacement massif de population. Et ces motifs de déportation se sont multipliés au fil des siècles, jusqu'à très récemment avec, en 1999, la déportation de 800 000 Albanais pendant la guerre du Kosovo. Mais le thème de ce programme, voyage, tourisme et découverte, ne nous conduira pas sur les traces de ces grandes déportations, non. Nous survolerons plus les déplacements volontaires et quelles qu'en soient les raisons et les moyens. Car, si le voyage est considéré aujourd'hui comme un état de fait évident et reconnu, il n'en a pas toujours été ainsi, du moins dans sa fréquence et ses moyens. Alors essayons de commencer par le début, avant l'invention du tourisme. Je pense judicieux de commencer par l'histoire des routes. Passages, pistes, sentiers, voies, chemins, routes et autoroutes. Rappelons-nous que les premières voies de transport de l'histoire se résument à de simples sentiers, qui sont à vrai dire la forme la plus primitive des routes. En effet, la création d'une piste ne demande aucune connaissance technique puisqu'elle se forme de façon naturelle et aucun entretien. On peut observer la création de sentiers chez de nombreuses espèces animales, comme la fourmi et la plupart des mammifères. Et paradoxalement, ce n'est qu'avec la sédentarisation de l'homme que s'installe la routine, qu'il fait prendre le même itinéraire de jour en jour, jusqu'à créer un sentier. D'ailleurs, on retrouve bien dans l'étymologie du mot routine le diminutif de route. Proprement dit, petite route comprend toujours la même par habitude. Et c'est en Mésopotamie que naquirent les premiers chemins, lorsque les pistes qui reliaient les plus grandes agglomérations mésopotamiennes d'entre elles finirent par s'élargir pour former des chemins. Contrairement aux sentiers, le chemin permet le passage de plusieurs hommes, de front. De plus, étant relativement large et dégagé, il facilite le développement du troc, puis du commerce. Les premiers convois de marchandises étaient transportés à cette époque par des chevaux et des bœufs. cette évolution du chemin est quand même étroitement liée à l'invention de la roue. Invention qui n'a pas vraiment de date ni d'inventeur spécifique, car elle s'est développée indépendamment dans différentes cultures anciennes à travers le monde. On peut lire quand même que la roue fut d'abord inventée en basse Mésopotamie, l'actuel Irak, par les Sumériens, en perçant un disque de bois pour y placer un axe de rotation. Il faut attendre 2000 avant Jésus-Christ pour que le disque soit évidé pour alléger la roue. Innovation qui permit des progrès fulgurants dans le domaine du transport, tant des hommes que des marchandises. Puis, Rome. Alors, quoique Rome n'ait pas connu de grands explorateurs, on peut dire pourtant que les Romains furent de grands voyageurs, surtout sous l'Empire, grâce au réseau routier, à la paix et à la réduction du brigandage. Quelles étaient les raisons de ces voyages? L'attraction des centres de culture, Athènes, Rhodes, Antioche, Alexandrie, Trèves. Un jeune Romain de classe aisée complétait sa formation par le voyage d'Athènes, c'est-à-dire en Grèce. Puis il y avait les déplacements officiels de magistrats, de fonctionnaires, d'officiers, de soldats, de fondateurs de colonies. D'ailleurs, chacun était muni d'un viaticum, ou identité de voyage, payé par l'État. Sous l'Empire, on arrivait même à se faire octroyer une mission fictive et à voyager ainsi aux frais de la princesse, à titre de legatus. Puis les affaires personnelles, négociants, commerçants, marchands d'esclaves, professeurs, comédiens. Plus rarement, les voyages de tourisme dans les sites historiques ou naturels, les Alpes, les pyramides d'Égypte, les jardins de Séminaris à Babylone ou bien encore le phare d'Alexandrie. Quels étaient leurs moyens de locomotion? Prenons l'exemple d'un voyageur entreprenant un voyage de Rome à Athènes, où il compte achever ses études. Suivant ses moyens, il peut disposer d'un véhicule portatif, litière, lexica, ou chaise à porteur, celle-là, d'un véhicule tracté, attelage à deux roues, carpentéum, ou à quatre roues, raïda. Il sera cependant souvent fort déçu en constatant la lenteur avec laquelle se déroule le voyage, en général une moyenne de 60 km par jour, ce qui lui laissera le temps d'admirer le paysage. Et s'il allait à cheval, sa vitesse ne serait guère plus grande. Puis au moment de partir pour la Grèce, il n'embarquera pas dans un de ces longs bâtiments de guerre qu'on manœuvre à la rame et qui sont assez rapides. Non, il ne disposera que d'un de ces cargos ronds, navis soneria et à voile, qui, par temps favorable, file à 5 nœuds, à peu près 9 km/h. Quand arrivera-t-il au Pirée? Nul ne peut le dire, cela dépend du vent et aussi des pirates. Que voilà un voyage passionnant, pourvu qu'on en sorte et qu'on ne fasse pas naufrage. Puis apparaît une autre forme de voyage, les voyages commerciaux, et j'aurais pu dire un autre voyage, tout particulièrement en rapport avec une étoffe et une destination. Vous devinez de quoi je veux parler? La route de la soie. Alors en préparant cette émission, je me suis demandé à quel moment j'allais devoir commencer pour vous parler non pas de la route de la soie, mais des routes de la soie. Car si elle fascine les voyageurs et façonne le monde, ce sont 2000 ans d'histoire des routes de la soie sur lesquelles il faudrait s'arrêter pour mieux comprendre. Car dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, la Chine des Han est menacée par les nomades venus des steppes du Nord. ses ambassadeurs, chargés de rouleaux de soie en guise de monnaie d'échange, partent chercher des alliés, jusqu'à dans la vallée du Ferghana, en Asie centrale. Puis, en grillant quelques étapes, on arrive au 4e et 5e siècle, où seuls les marchands de la Sordiane, c'est-à-dire l'Ouzbékistan, le Tadjikistan actuel, dont la capitale est Samarcande, ont le monopole du commerce en Asie. Leur route va jusqu'à la capitale chinoise, Chang'an, l'actuelle Xi'an. Puis au XIIIe siècle, des voyageurs européens comme Marco Polo, marchand vénitien au service de l'empereur mongol Kubilai Khan, rapportent de précieux récits. Et comme l'histoire n'est jamais finie, on pourrait aller jusqu'en 2013, où le président chinois Xi Jinping lance le programme des nouvelles routes de la soie. Son objectif, créer un réseau mondial d'infrastructures stratégiques au service de l'économie chinoise. Mais ce que l'on retient surtout, c'est l'incroyable odyssée de Marco Polo, qui l'a mené de Venise aux confins de la Chine, où ses récits de voyage retranscrits dans son livre « Des merveilles » influenceront d'autres explorateurs à sa suite, comme Vasco de Gama, Christophe Colomb. Puis apparaissent les guides de voyage. Les guides de voyage, oui, on pourrait penser que les guides de voyage sont assez récents, surtout quand on les voit fleurir de nos jours avec le petit futé, le guide du Rotard, le guide Michelin et tant d'autres. Mais non, il y avait déjà des guides de voyage au Moyen-Âge, dont ceux dédiés à la Terre Sainte, qui ont été parmi les plus répandus et donné lieu à de nombreuses copies. Ces itinéraires et autres chemins pour aller en Jérusalem, pour la plupart anonymes, formèrent des ouvrages largement diffusés dans l'ensemble de la chrétienté latine. Pour ceux qui cherchent à voir ce qui fait l'intérêt du voyage médiéval, ces guides de Terre Sainte offrent un regard d'autant plus utile qu'ils ne relèvent pas du récit d'un particulier et de ses buts personnels, mais entendent donner une image du voyage qui soit commune, valable pour l'ensemble des publics. Mieux encore, en sélectionnant les lieux à visiter par le voyageur. Ces guides n'illustrent pas simplement les objectifs de celui-ci, ils soulignent ce qui est digne d'être vu. Ils établissent un itinéraire idéal et encadrent strictement les intérêts et les enjeux jugés les plus valides de ce voyage, éminemment spirituel, qu'est celui menant en Terre Sainte. On peut constater aussi la différence existant entre ces guides de Terre Sainte et les récits de pèlerinage. Aux récits de pèlerinage, qui proposent au passé et parfois à la première personne des considérations personnelles, s'oppose le guide qui conjugue les observations au présent voire au futur sur un ton plutôt neutre. Le guide médiéval ne juge pas, il se contente d'indiquer. Au 8e siècle, Bède le Vénérable avoue, dans son traité considéré comme l'un des premiers guides complets de Terre Sainte, avoir copié largement le récit du voyage que l'évêque Arcouf avait effectué au siècle précédent, en substituant la description des lieux pour en rapporter plutôt leur position et la distance par rapport aux grandes cités du Levant. Contrairement au récit de voyage, le guide cherche moins à décrire les lieux qu'à les localiser, refusant d'en donner une représentation précise, nécessairement inutile puisque son lecteur est voué à les découvrir lui-même. Comme je viens de l'expliquer brièvement, le guide de voyage n'est pas récent. Le mot « guide », du substantif verbal féminin « guida »,« guia »,« guide », »,« action de guider », désignait un ouvrage qui indiquait le chemin. Les premiers guides furent donc conçus pour aider les pèlerins, plus tard ceux qui prirent la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou Rome. En 1552, le guide des chemins de France de Charles Étienne connaîtra un grand succès. Puis au XIXe siècle vont apparaître les collections de guides qui, elles, tendent d'uniformiser le regard du voyageur avec, entre autres, l'apparition de l'astérisque, ce petit signe typographique en forme d'étoile. En quoi est-il important? Bien, il permet d'optimiser son voyage en un minimum de temps. Vous irez voir seulement le monument ou le spectacle où il y a trois astérisques, car représentés comme incontournables. Ce qui tend à uniformiser le parcours du voyageur et aussi à faire naître sa déception. Souvent nourri d'espoir à la lecture du guide, le voyageur connaît aussi la déception face à sa propre perception qu'il a de la recommandation faite par le guide. Puis les guides ne suffisant pas, l'année 1865 verra naître ce qu'on pourrait appeler la première agence de voyage. Face à l'exigence croissante de service de sa clientèle, Thomas Cook ouvre sur Fleet Street à Londres sa première agence de voyage. Instigatrice du voyage organisé, l'agence conservera le monopole pendant quelques années. Son activité se développe grâce à l'Exposition universelle de Londres en 1851, premier événement à susciter d'importants mouvements de population pacifique. En 1855, il organise un premier circuit touristique à travers l'Europe et, en 1868, il lance les premiers coupons d'hôtel. Une première croisière sur le Nil est organisée l'année suivante. Enfin, en 1874, il crée le chèque voyage. Première station balnéaire, thermale, de montagne, dans les années 1850. Puis, l'histoire, du moins les historiens, se sont nourris de ces récits de voyageurs. Ce que l'on sait à l'époque des sociétés, et surtout des sociétés sans écriture, provient essentiellement des écrits de ces voyageurs qui traversèrent ces régions. Mais on s'aperçoit que leurs textes ne rapportent qu'une vérité relative sur ces sociétés observées. On apprenait en fin de compte beaucoup plus de choses sur celui qui observait que sur ceux qui étaient observés. Et il faut avouer que ce constat est relativement récent, car on pensait savoir beaucoup de choses sur ces contrées lointaines, et à vrai dire, on ne savait que le regard qui était porté par ces voyageurs. Et c'est surtout l'histoire des mentalités qui nous a permis de mieux comprendre ce phénomène. On pourrait ouvrir à ce sujet une petite parenthèse avec un homme de plume, connu sous le nom de Stendhal, dont son ami Mérimée disait de lui qu'il avait besoin de locomotion, qu'il aimait voyager, curieux avant tout, des gens et du monde qui l'entoure, notant ce qu'il voit et ce qu'il ressent au fil de sa plume. Eh bien, ce fameux Henri Bell, plus connu sous le nom de Stendhal, et par ses romans Le Rouge et le Noir ou La Chartreuse de Parme, fut aussi un grand voyageur, préférant parcourir l'Italie plutôt que de voyager dans sa tête, sillonnant l'Europe au cadeau de Napoléon. Il écrivit cette chose si juste que je partage à 1000%. Le plus grand plaisir du voyage est peut-être l'étonnement du retour. Je vois qu'il donne de la valeur aux êtres et aux choses les plus insipides. Voilà, refermons cette petite parenthèse plus sociologique que touristique. Puis arrive ce que l'on appellera la massification ou la démocratisation des vacances. Et cela commence assez tôt, bien avant l'arrivée des congés payés. À partir des années 1830, on commence à entendre que les touristes gâchent le paysage. George Sand et d'autres en parlent, sans se rendre compte, sans doute, qu'il s'agit d'un vrai mépris de classe sociale. L'idée qu'on avait du tourisme acceptait que de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles contrées, n'était pas donné à tous, qu'il fallait le mériter en ayant, entre autres, une certaine culture, ce qui excluait d'emblée les classes populaires. Arrivait, en quelque sorte, une nouvelle image du tourisme. Alors je dis en quelque sorte qu'on n'avait pas attendu cette époque pour voyager. Au travers de ce que on appellerait aujourd'hui le voyage d'agrément, que ce soit un voyage de santé ou un voyage d'études. Ceux qui appartenaient à une certaine élite sociale pouvaient aller passer un ou deux ans en Italie ou ailleurs pour finir leurs études, rencontrer les grands peintres. C'était ce qu'on appelait le grand tour au XVIIe siècle. qui a donné par la suite ce terme de tourisme et touriste. Puis tout cela s'accompagne d'un vrai basculement, où tout va s'accélérer. Esther May est vraiment adéquate, s'accélérer, vers la fin du XVIIIe siècle, avec une histoire qui semble s'entremêler, la technique, la science, les arts, l'éducation, la politique, la santé, l'arrivée de l'automobile, de l'avion, des paquebots, accélération qui va complètement modifier la façon de voyager. Puis les critiques sur ces nouveaux touristes s'accompagnent du jugement de quelque chose qui nous paraît indispensable aujourd'hui, la vitesse. L'accélération donne l'impression à certains d'être davantage expédiés que de voyager. À tel point qu'aujourd'hui, pour se rendre d'un point à un autre, on ne parle plus de voyage, mais de trajet. Car même si la massification commence réellement dans les années 60, l'arrivée des congés payés en 1936 étant le point de départ, comme je viens de le dire, dès les années 1830, les choses évoluent et se transforment. Prenons quelques exemples et arrêtons-nous pour commencer sur les paquebots et les croisières. Nous savons que l'ancêtre de nos bateaux fut la pirogue qui avançait à la force du rameur. Les Égyptiens de l'Antiquité, puis les Phéniciens, ajoutèrent un mât, des voiles et une rame gouvernail. Chaque peuple, chaque époque, adapta ensuite son modèle, utilisé pour le commerce ou pour la guerre. Trières grecques, drakkars vikings, galères romaines, jonques, galions. Puis au XIXe siècle, la force du vent est remplacée par la vapeur. Et durant les années 1830, les migrations à destination des Amériques augmentent énormément. Ces mouvements de population sont une vraie manne financière pour les compagnies maritimes. Au début de ce XIXe siècle, avec l'essor de ces migrations internationales et du phénomène colonial, de nombreuses innovations techniques, telles que la machine à vapeur dont on vient de parler, et les coques en acier, vont permettre aux paquebots de gagner en taille et en puissance. Comme en atteste l'histoire, les débuts furent compliqués et douloureux. La taille des navires allant en augmentant, les coques en bois se fragilisent, et l'on voit l'apparition de coques en fer à partir de 1845, puis en acier. Le premier navire à double coque en fer est le Great Britain, qui est également le premier navire sur lequel une hélice remplace les roues à aubes. Une fois encore, le navire effraie la clientèle et sa carrière se révélera désastreuse. Le navire s'échoue et est reconverti en entrepôt. La compagnie américaine Collins, fondée en 1818, prend, elle, le parti du luxe, avec des navires pourvus de chambres froides, de systèmes de chauffage et d'innovations diverses. Mais l'opération reste coûteuse. Le naufrage de deux de ces navires porte un coup fatal à cette compagnie qui sera dissoute en 1858. Toujours en 1858, Brunel construit son troisième et dernier géant, le Great Eastern, d'une longueur de 212 mètres. Ce paquebot restera pendant près de 40 ans le plus grand objet flottant jamais construit. Il peut, en théorie, embarquer 5000 personnes. En 1897, l'Allemagne se lance à son tour dans cette aventure et parvient à dérober le ruban bleu aux Britanniques avec le premier des 14 paquebots à 4 cheminées. Le ruban bleu étant la récompense créée par les compagnies de navigation transatlantique au XIXe siècle et attribuée au propriétaire du navire le plus rapide du monde. Puis la succession des deux guerres mondiales verra ces grands paquebots utilisés à des fins militaires avec des destins plus ou moins heureux. Le Queen Elizabeth et le Queen Mary se distinguent alors pour leur transport des troupes. La France n'est pas en reste avec, et nombreux s'en souviennent, le France, mis en service en 1912, équipé de canots de sauvetage d'une capacité suffisante pour accueillir tous les passagers et les membres d'équipage suite au naufrage du Titanic. Puis nous eûmes le Normandie, construit à Saint-Nazaire à partir de 1931. Lorsqu'il entra en service commercial, le Normandie était le plus grand paquebot du monde. Puis, dans les années 1950-1960, une autre orientation est donnée à ces géants des mers. On passe du transport de voyageurs à la croisière, n'effectuant quasiment plus de traversée transatlantique, car l'avion étant beaucoup plus rapide, ils se transforment en véritables hôtels flottants, proposant à leur clientèle des restaurants, des salles de gymnastique, des piscines, des théâtres, des cinémas ou bien des casinos, ainsi que des offres de prestations de luxe comme des suites, de la balnéothérapie, du thermalisme, entre autres. Le navire n'est plus un moyen pour traverser une mer ou un océan, mais devient un but en soi. Pour vous donner une petite idée, le Symphony of the Sea, un navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean, construit au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire entre octobre 2015 et mars 2018, 2745 cabines, près de 1800 cabines avec vue sur mer, propulsé par des moteurs d'une puissance de 126 000 chevaux, pour une consommation totale d'environ 270 tonnes par jour de navigation. 361 mètres de long, plus de 3 terrains de foot, une capacité de près de 7000 passagers. Il n'est pas le plus gros, il a le Wonder of the Sea, avec ses 2204 membres d'équipage et ses 72 mètres de tirandaire, une hauteur en dehors de l'eau équivalente à un immeuble de 20 étages. Puis, parmi les nombreuses innovations techniques que nous devons au début du 19e siècle, il y eut en France, très précisément en 1827, la construction d'un chemin de fer entre Saint-Étienne et Andrézieux, une petite commune des bords de Loire, pour faciliter l'évacuation du charbon vers la région parisienne, ligne longue d'environ 20 km. Puis en 1832, une seconde ligne sera ouverte, assurant à la fois le transport des marchandises et des personnes entre Saint-Étienne et Lyon. Enfin, le réseau français commence à prendre forme, ensuite autour de Paris. Ces nouveaux modes de déplacement rapide sont une expérience tout à fait bouleversante. Imaginez-vous, à l'époque, vers 1850, installé sur l'impériale d'un train, voir défiler le paysage à une vitesse qu'on n'avait jamais imaginée. Puis, l'escarbille dans l'œil, ce petit bout de charbon échappé des fourneaux, des moteurs à vapeur, des locomotives. Tout ça est si nouveau et révolutionnant. Quelques chiffres pour illustrer les progrès faits par le train quand la locomotive fut électrisée. Record de vitesse en traction électrique, 1903, 210 km/h. Sans voyageurs, juste là, la loco. Un nouveau prototype atteint les 225 km/h en 1940. Puis, dans les années 80, arrive le TGV, avec des vitesses avoisinant les 400 km/h. Le 3 avril 2007, à 13h30, une rame de TGV, adaptée dans le cadre de l'opération V150, établit un nouveau record officiel à 574 km/h. Et à ma connaissance, le train le plus rapide au monde, un bijou de technologie venant tout droit du pays du soleil levant, roule à une vitesse maximale de 603 km/h. On assiste là, avec le train, avec le rail, à une terrible évolution du voyage et des déplacements humains. Mais avant d'aborder un nouveau facteur favorisant le voyage et le tourisme, revenons un instant sur ce dont je parlais en tout début de programme, la route, ce support technique paraissant aujourd'hui comme indispensable. C'est au XVIIIe siècle qu'un tournant fut pris, façon de parler, sur l'effort routier, faisant vivre les premières expériences de la vitesse, avec la création de ces grandes routes droites. Naquit alors les premiers accidents dus à la vitesse, non pas du train ou de l'avion, mais de la diligence, un nom d'ailleurs très significatif, Diligence. L'exemple le plus connu sans doute, la mort d'un des fils de Louis-Philippe en 1842. Depuis le temps des Lumières, on se moquait des temps féodaux qui n'avaient pas de route pour désenclaver les villes et les régions. Et la mise en communication par le biais de ces nouvelles routes fut reconnue, à juste titre, comme une avancée indispensable. De quoi s'accompagnait cette avancée ? De l'arrivée de la voiture. En 1769, Joseph Cugnot avait inventé un prototype prometteur, un fardier à vapeur. Puis c'est au cours du 19e siècle qu'on commence à expérimenter des véhicules électriques, sans possibilité de recharge. Puis arrive l'invention du moteur à combustion et à essence, qui marquera un véritable tournant. Les premières automobiles modernes circulent à partir des années 1890, à une vitesse d'environ 10 km/h, soit l'équivalent en puissance d'un cheval. Puis au XXe siècle, le mode de transport automobile et les moteurs thermiques se généralisent. La voiture devient l'emblème de tout un mode de civilisation et une porte grande ouverte sur l'évasion. Quelques chiffres encore pour illustrer l'essor mondial que connut ce moyen de transport. 250 000 automobiles sont dénombrés en 1907. 500 000, le double, en 1914, 7 ans plus tard, avec l'apparition de la Ford T. 50 millions avant la Seconde Guerre mondiale. Le parc automobile triple pendant les Trente Glorieuses et atteint les 300 millions de véhicules en 1975. 947 millions de véhicules en 2015. Et une estimation en 2020 donnait le chiffre de 1 milliard 400 millions de véhicules à moteur à 4 roues. La fin de la voiture n'est pas pour demain. J'ai fait quelques recherches complémentaires pour connaître, comprendre. Un des facteurs majeurs de la démocratisation, ou plutôt de la popularisation de la voiture et de son développement croissant. Encore quelques chiffres et quelques dates. Le prix des voitures les plus vendues en France à certaines époques est leur équivalence en heures de travail pour se les offrir. Et je n'ai commencé cette étude qu'à partir de 1950 car apparaissait à cette époque le premier salaire minimum. Et ça donne ceci. 1951, la Renault, la 4 chevaux, 390 000 anciens francs. Il faut donc travailler 6101 heures pour s'offrir cette petite populaire de Boulogne-Billancourt. 10 ans plus tard, 1961, la 4L s'installe en tête des ventes. Son prix, 5350 francs. On vient de passer au nouveau franc. Soit 3172 heures de travail pour se la payer, quasiment deux fois moins que 10 ans auparavant. En 1978, il faut débourser 22 700 francs pour acheter la Renault 5 TL, la R5. Et l'on remarque qu'il ne faut plus que 2050 heures de travail pour s'offrir une voiture neuve, reine des ventes. En 85, la R5 est détrônée par la Peugeot 205, qui vous coûte l'équivalent de 1985 heures de boulot. Et en sautant quelques étapes, on arrive en 2020, la Peugeot 2008 de dernière génération, prix de base 16 200 euros, avec un SMIC brut à 10,15 euros de l'heure, cela fait 1596 heures de travail pour s'offrir cette citadine. L'énoncé de ces chiffres, un peu indigeste, explique clairement le pourquoi de l'expansion, du développement et de la démocratisation de la voiture. Voiture qui s'inscrit, bien évidemment, dans l'évolution du voyage. Puis, souvent lié aujourd'hui à la voiture, arrive le camping. Alors bien que les nomades utilisaient déjà des toiles pour se reposer, que les soldats romains utilisaient des grandes toiles en forme de pyramide, les pagans, pour y vivre, le terme camping n'existait pas encore. Et paradoxalement, cette pratique était considérée avant la Première Guerre mondiale, comme une activité de la bourgeoisie. Elle était réservée à des hommes qui disposaient d'une bonne condition physique, pratiquant du cyclotourisme ou de la randonnée pédestre. Certains bourgeois, voulant quitter les grandes villes à cause de l'air pollué par les industries, s'échappaient en utilisant des toiles de tente. Des associations voient le jour dès 1844. Le mouvement protestant anglais, la coopérative d'excursion. Puis en 1875, l'association du cycle et des campeurs. Le journal sportif Lotto décrit l'art de camper des aristocrates anglais et leur déplacement en roulotte en 1903. En 1910, le Club français du camping, puis en 1912, les Campeurs de France structurent l'expérience du tourisme de plein air en toute liberté. De plus en plus de grandes organisations du camping naissent jusqu'au matin de la Seconde Guerre mondiale. Le Touring Club de France, ou le groupement des campeurs universitaires, publie des guides dédiés aux campeurs et crée des terrains de camping. C'est avec l'apparition des congés payés en 1936 que le camping prendra vraiment toute son ampleur en France. Mais c'est plus particulièrement de 1945 à 1975 que le camping connaît son développement le plus spectaculaire. En effet, dans les années 50, le camping n'est pas très organisé et les campeurs, pratiquant ce qu'on appellera plus tard le camping sauvage, s'installent souvent au bord de la route, sur des falaises, au bord de la mer ou directement sur les plages. Beaucoup de familles s'équipent de tentes en toile, bien plus encombrantes que celles d'aujourd'hui. Tout ça me rappelle ma canadienne de place, assez lourde et pas complètement étanche. Et c'est réellement là que le boom des vacanciers a pris son essor. La grande transhumance des vacances d'été devient un fait de société massif. En 15 ans, de 1951 à 1966, les vacanciers en France sont passés de 8 millions à 20 millions. Ce phénomène est dû, entre autres, à l'allongement de la durée des congés payés, à la démocratisation des moyens de transport, le train, mais aussi la voiture individuelle. Mais d'autres facteurs entrent en jeu dans l'expansion du camping durant ces années-là. Les gens commencent à se rendre compte des avantages du camping par rapport à une pension de famille ou un hôtel plus classique. D'abord, les vacances en camping sont moins chères. En effet, le prix et la qualité des articles de camping s'améliorent et la location des emplacements est raisonnable. Puis, un plus grand sentiment de liberté. Enfin, un regain d'intérêt pour le plein air et la nature. Et le camping devient le deuxième mode d'hébergement des touristes. On se doit de signaler malgré tout, petite parenthèse, la proximité du camping et du scoutisme, deux mouvements très proches. On peut rappeler que Sir Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, fut le troisième président du club de camping, et qui dit scout, dit camp. En effet, tous les jeunes scouts de tous les âges partent en équipe camper en pleine nature, car c'est à la fois une expérience plaisante et d'apprentissage. Il faut être capable de monter sa tente, allumer un feu, utiliser un couteau, une scie, apprendre à lire une carte topographique, se repérer à la boussole et trouver son chemin pour atteindre son but. En refermant cette parenthèse entre le camping et le scoutisme, pour en arriver au constat actuel que l'on peut faire sur ce que l'on appelle aujourd'hui l'hôtellerie de plein air. D'après l'INSEE et des instances gouvernementales, l'hôtellerie de plein air constitue la première offre d'hébergement touristique marchand en France, avec environ 50% des lits marchands et plus de 7800 campings. Ce qui constituait pour l'année 2016 plus de 700 000 emplacements. En 2018, on pouvait compter quelque 120 millions de nuitées, chiffre passé à 136 millions de nuitées enregistrées par les campings entre avril et septembre 2022. En effet, le camping constitue le mode d'hébergement favori des touristes français et étrangers, avec le premier parc en Europe et le second au monde derrière les États-Unis. On constate depuis 20 ans le développement dans ce secteur de l'offre locative vers les mobil-homes et les habitations légères de loisirs, ce qui correspond aux attentes de la clientèle, à savoir une solution de vacances qui allie les attraits du plein air et une demande de confort. Les modes d'hébergement se déclinent en caravanes et camping-cars, mobil-homes, habitations légères. Autres hébergements insolites aussi, des chalets, des yourtes. Toujours selon la FNHPA et l'INSEE, les campings les plus recherchés par la clientèle, qu'elle soit française ou étrangère, sont les campings 4 ou 5 étoiles, bien que ne représentant que 20% de l'offre en France. Et ces campings, de plus en plus prisés par les vacanciers, n'ont plus grand-chose à voir avec les campings de ma jeunesse, souvent imposés aux plus jeunes par son côté économique. Étant aujourd'hui presque tous dotés d'un parc aquatique, plus qu'une piscine, et de soirées animées. Eh bien, il fallait compter en août, pour deux personnes, entre 1000 et 2000 euros la semaine, oui quand même, 1500 euros en moyenne pour 7 nuits, dans un camping de luxe, les plus recherchés actuellement. Un autre facteur, une autre innovation à prendre en considération dans le monde du voyage, c'est bien sûr tout ce qui a trait à l'aérien. Faire voler un engin plus lourd que l'air, un défi que l'homme a essayé de relever au fil des époques, en utilisant différentes énergies. C'est tout d'abord en 1783 que l'homme réalisera son rêve, le rêve d'Icare, celui de voler. Le 19 septembre 1783 est une date clé avec le premier vol aérostatique de l'histoire. L'expérience conduite par les frères Montgolfier à Versailles. Joseph et Étienne Montgolfier, d'origine ardéchoise, avaient entamé en 1782 une série d'expériences autour d'une pièce de tissu gonflée par un feu de laine et de paille mouillée. Une démonstration les fait remarquer de l'Académie royale des sciences, qui les appellera à renouveler leur expérience à Paris. Ce ballon mesure 18,47 m de haut sur 13,28 m de large et pèse 400 kg. Il se nomme le Réveillon. La démonstration a lieu devant Louis XVI et la famille royale, dans l'avant-cour du château Noir de Monde. À bord, des animaux. Le ballon s'élève, à la stupéfaction et sous les acclamations du public. Il monte à 600 mètres. Endommagé par une déchirure, il descend lentement 8 minutes plus tard, après avoir parcouru 3,5 km, et atterrit dans le bois de Vaucresson au carrefour Maréchal. Les animaux sont recueillis par Jean-François Pilâtre de Rosiers, un physicien et futur aéronaute. Les animaux sont vivants, l'expérience est un succès, la porte du premier vol humain est ouverte. Puis, quelques dates importantes vont jalonner l'histoire des airs. 13 décembre 1903, les frères Wright et leur Flyer One, un biplan où le pilote est allongé sur le ventre, réalisent leur premier vol à Kittiwake en Caroline du Nord aux États-Unis. 23 octobre 1906, Alberto Santos Dumont réalise le premier vol public et contrôlé officiellement d'un engin plus lourd que l'air à moteur couvrant une distance de 220 mètres en 21 secondes à Bagatelle à Paris. 25 juillet 1909, Louis Blériot réalise la première traversée de la Manche. 18 avril 1927, le Spirit of St. Louis de l'aviateur américain Charles Lindbergh effectue la première traversée transatlantique. Puis pour en arriver au voyage et non plus aux expériences, il y a 110 ans quasiment jour pour jour, le 1er janvier 1914, où pour la première fois, un passager payait un billet d'avion sur la première compagnie aérienne de l'histoire de l'aviation. Pour 400 $ et 23 minutes de vol, un passager reliait Tampa à Saint-Pétersbourg en Floride. Le tout à une vitesse de 121 km/h sans dépasser les 15 mètres d'altitude. Signalons qu'il lui aurait fallu, jusqu'alors, 2h30 en bateau ou, en l'absence de pont reliant les deux rives, 6h en train, voire une journée en voiture. Ce biplan, construit en bois et contreplaqué, équipé d'un moteur de 75 chevaux et d'une hélice bipale en bois, ne contenait que deux places, celle du pilote et celle du passager. Un siècle plus tard, les compagnies aériennes transportent plus de 3 milliards de passagers par an. Toutes les minutes, 52 vols décollent d'un aéroport de la planète, quasiment un vol par seconde. Puis pour conclure cette émission sur le voyage et le tourisme, je me devais rappeler à certains les 450 000 dollars pour faire une virée de 90 minutes à bord d'une fusée, un décollage aérien qui frôle les limites de l'espace. L'idée du tourisme spatial fut récemment portée à un tout autre niveau par les propositions d'entreprises comme SpaceX, Virgin Galactic et Orion Span. Cependant, il est à noter que le premier touriste spatial qui voyagea dans l'espace en 2001 fut l'Américain Dennis Tito, un homme d'affaires californien d'origine italienne, qui avait versé des millions de dollars à l'agence spatiale russe. Ce premier touriste de l'espace, à bord de la mission Soyouz, a quand même déboursé 20 millions de dollars pour un vol de 7 jours, 22 heures et 4 minutes. 100 000 dollars de l'heure, cette petite virée dans l'espace. Il faut reconnaître malgré tout que la majeure partie de l'histoire des vols spatiaux, habités ou non, était à l'origine pour l'exploration et la recherche. Et que ce n'est qu'un développement assez récent qui a vu plusieurs personnes voyager dans l'espace pour le plaisir. Et comme pour le tourisme classique, l'objectif ici est de vivre une expérience agréable, tandis que les entreprises fournissant ces services visent à faire du profit. Le 10 août 2023, Virgin Galactic a emmené ses premiers touristes pour un bref voyage dans l'espace. Alors c'était une étape attendue de longue date pour la société fondée par le milliardaire Richard Branson. Trois passagers, accompagnés d'une employée de l'entreprise chargée de les encadrer et de deux pilotes, ont passé quelques minutes dans l'espace d'où ils ont pu admirer la courbure de la Terre et brièvement flotter en apesanteur. Environ 800 clients ont acheté leurs billets pour un prix d'abord compris entre 200 000 et 250 000 dollars par passager, qui a par la suite été rehaussé à 450 000 dollars. Virgin Galactic est en concurrence avec Blue Origin, l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos, qui propose, elle aussi, des vols suborbitaux courts et a déjà envoyé 31 personnes dans l'espace. Alors sans vouloir parler du dérèglement climatique, c'est pas le but de ce programme, on est quand même en droit de se demander s'il est légitime de s'inquiéter vu que les entreprises de tourisme spatial comptent augmenter de manière exponentielle le nombre de leurs vols. Bien que les coûts diminuent et que la technologie progresse, il faut quand même compter au bas mot 250 000 dollars. C'est quand même pas mal de pognon pour s'envoyer en l'air. Alors après avoir brossé le tableau de trois siècles d'évolution technique des voyages, avec les paquebots, les trains, les voitures et les avions, examinons rapidement une des formes de voyage avec le voyage de noces. Pour résumer cette histoire de voyage de noces, on pourrait dire que dans les années 1840, la côte algérienne est aménagée en un lieu touristique, côte qui deviendra rapidement un endroit privilégié pour effectuer son voyage de noces, du moins pour tous les couples qui ne choisissent pas de partir en Italie. Ce voyage qu'on appelait le voyage à la manière anglaise dans les années 1820 devint alors le voyage de noces. Alors, c'est une forme de robotisation du couple qui se libère en partant seul et va, de fait, créer une véritable industrie du voyage de noces. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que personne ou presque n'y échappe. En s'inspirant de ce modèle occidental, on voit aujourd'hui des jeunes couples chinois ou autres se faire photographier dans le jardin des Tuileries, place Saint-Marc à Venise ou sous les cerisiers en fleurs du parc Maruyama à Kyoto. Et le voyage d'agrément qui fut longtemps européen a pris aujourd'hui des proportions mondiales. Et la découverte, qui est elle propre des explorateurs, non d'ailleurs créée pour l'occasion au XIXe siècle, eh bien la découverte n'est plus le propre des savants ou des chercheurs. Puis le dernier aspect que nous aborderons ce soir, faute de temps, c'est le voyage de santé. Et je ne parlerai pas du thermalisme, vieux comme le monde, mais de l'approche sanitaire plutôt moderne du voyage. Et cela en commençant par la lecture d'un merveilleux poème que Charles Baudelaire écrivit en 1859. Pour l'enfant, amoureux des cartes et des stampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand, à la clarté des lampes. Aux yeux du souvenir, que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancunes et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, perçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changé en bête, il s'enivre d'espace et de lumière et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent. Pour partir, cœurs légers, semblables aux ballons. De leur fatalité, jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours « Allons ». Pourquoi ce poème? Car il clôture la partie des fleurs du mal, qui s'appelle spleen, et le spleen est une maladie, un sentiment assez ancien, une maladie qu'on appelle depuis le XVIIe siècle mélancolie. Et pour soigner cette affection, on préconise le voyage. Car il est admis que les spectacles changeants du monde qui défile sous nos yeux vont nous guérir. Puis on parlera plus tard de la neurasthénie, une forme moderne de l'ennui. Et que propose-t-on aux neurasthéniques à la fin du XIXe siècle? Une croisière. Le voyage est donc plus qu'un agrément, mais un remède à certains maux. Et changer d'air, comme on le disait auparavant, reste encore un moyen de retrouver un certain équilibre. Si le temps me le permettait, il aurait été souhaitable que je vous parle du tourisme de demain, car il est évident que nous vivons une époque où nous avons pris conscience que l'empreinte carbone, entre autres, affecte profondément et durablement le mécanisme du réchauffement climatique. Ce qui laisse bon nombre de questions en suspens.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beng.
Vous comprendrez aisément qu'on aurait pu évoquer bon nombre d'autres moyens de transport, bon nombre d'autres façons de concevoir les vacances, bien d'autres références aux exploits réalisés par les explorateurs au fil des siècles. Mais voilà comment, en une heure, j'avais envie de vous raconter l'histoire écrite par l'homme en rapport avec l'ensemble de ses déplacements. Expéditions, découvertes, commerces, colonisation, pèlerinage, villégiature ou autres motifs. Voilà des millénaires que l'homme voyage, et les moyens évoluant sans cesse, on est en droit de se demander où nous arrêterons-nous. Comme pour chaque émission, et tout particulièrement celle-ci, je vous invite à vous rendre sur le site orinoco-podcast.com où vous trouverez d'abord l'ensemble des titres musicaux qui me servirent à illustrer cette émission, mais surtout de nombreuses photos représentant la plupart des moyens de locomotion employés au fil des temps. En attendant de vous retrouver le mois prochain, du moins je l'espère, je vous souhaite le meilleur à l'écoute de vos radios préférées. Ciao, à dans un mois.